7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
J'avance d'une heure, 18h39. Bonjour Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Beaucoup de politique au menu ce soir, à commencer par les élections présidentielles et législatives au Kenya.
Oui, double scrutin prévu en août prochain. Et déjà, un énorme casse-tête pour la commission électorale kenyane qui a lancé à la mi-janvier une vaste campagne d'enregistrement des électeurs. Car elle estime qu'un tiers du corps électoral, soit 9 millions de Kenyans, ne sont toujours pas enregistrés sur les listes électorales. Elle s'est donc fixée pour objectif de faire inscrire 4 à 6 millions de nouveaux électeurs en seulement un mois, d'ici le 14 février. Enjeu d'autant plus important qu'il s'agit de faire oublier la dramatique présidentielle de 2007, où les violences post-électorales avaient fait près de 1200 morts, un demi-million de déplacés, puis celle de 2013, entachée de très forts soupçons de fraude. Alors cette année, la première économie d'Afrique de l'Est veut un scrutin irréprochable. Bonsoir Bruno Meyerfeld, en direct de Nairobi.
Bonsoir.
Alors vous êtes rendu, Bruno, dans l'un des 25 000 bureaux d'inscription installés par les autorités, et pas n'importe où, hein, dans le bidonville de Kibera, l'un des plus grands d'Afrique, 200 000 habitants, un bidonville où les violences entre communautés avaient été particulièrement terribles en 2007. Hein.
Oui, Michael, je me suis rendu dans un bureau d'enregistrement à l'entrée du bidonville. Là, sous un parasol vert, je retrouve Rosabella. Elle est employée de la commission électorale.
Pour s'enregistrer, il suffit de venir avec sa carte d'identité en cours de validité ou son passeport. On cherche ensuite dans les fichiers de nos ordinateurs et si on constate que vous n'êtes pas inscrit, on vous enregistre tout de suite.
Arrive un jeune homme, Benson, étudiant de 26 ans. Il vient s'enregistrer, mais ne se fait pas trop d'illusions.
Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que les élections vont être truquées. Et tout ça me fait peur parce que ça remet en cause mes droits démocratiques et le choix de tous les Kenyans. Mais en attendant d'être sûr, il faut quand même s'inscrire pour voter. Il ne faut pas que toutes ces rumeurs deviennent des raisons pour ne pas participer aux élections.
Et quels sont ces soupçons, ces rumeurs de fraude dont parle ce jeune Kenyan ?
Alors Michael, c'est très confus. L'opposition accuse la commission d'enregistrer deux fois les mêmes électeurs, des électeurs déjà décédés ou même des étrangers non kenyans, le tout avec l'aide des services secrets. Un procédé inacceptable, selon Ken Okoff, le député de Kibera.
On a une élection prévue pour dans quelques semaines et il y a encore des gens à Kibera qui attendent leur carte d'identité depuis 2 ou 3 ans et qui donc ne peuvent pas aller s'inscrire sur les listes électorales. Je ne sais pas pourquoi ils doivent attendre, peut-être parce qu'ils sont musulmans ou qu'ils ont des origines étrangères comme les Nubiens de Kibera ou parce qu'ils font partie d'une minorité. Selon mes estimations, entre 5 et 10 000 habitants de Kibera sont dans cette situation.
Et dans ce contexte un peu chaotique, hein, Bruno, comment se passe l'enregistrement des nouveaux électeurs ?
Pas très bien, Michael. Pour l'instant, on a enregistré 2 fois moins d'électeurs que prévu et la commission a reconnu que 120 000 Kenyans avaient été enregistrés 2 fois. Alors, tout le monde y va de sa petite idée pour rameuter les foules. On a lancé un bureau caravane avec de la musique et de la Wi-Fi sur les routes du Kenya. Dans l'Ouest, des mototaxis refusent tout passager sans carte d'électeur et une députée a même demandé aux femmes du pays de priver leur mari de tout rapport sexuel tant que ceux-ci ne seraient pas inscrits.
Ça peut être efficace, hein. J'imagine en tout cas que les grands leaders politiques du pays essaient aussi de faire inscrire un maximum de partisans, non ?
Oui, alors le président sortant, Uhuru Kenyatta, et l'opposant historique, Raila Odinga, font le tour du pays. À ce sujet, je vous propose d'écouter Lucas Kimanti. Il travaille à la Commission nationale du Kenya pour les droits de l'homme.
On n'a jamais vu une telle énergie déployée pour une campagne d'inscription sur les listes électorales. Kenyatta sait que sa meilleure chance de garder le pouvoir, c'est de faire enregistrer le maximum de ses partisans. Aujourd'hui, dans sa tournée à travers le Kenya, il parcourt surtout le centre et l'est pour mobiliser ses troupes, et pas l'ouest, qui est plutôt un fief de l'opposition.
Alors de toute façon, tout le monde pourrait avoir un délai. La loi électorale est encore très contestée et le processus a pris des mois de retard. Les élections kenyanes pourraient donc bien être reportées à la fin de l'année.
Bruno Meyerfeld, correspondant de France Inter au Kenya, merci beaucoup.
Politique encore, Michael, présidentielle encore, mais beaucoup plus près de nous avec le Penelope Gate qui passionne la presse étrangère.
Ah oui, tous les grands quotidiens européens, et pas seulement, commentent largement l'affaire Fillon. Et le ton n'est pas vraiment très tendre, tel le quotidien suisse Le Temps qui rappelle que le père Lamorale, je cite, s'était toujours félicité de n'avoir jamais été mis en examen, contrairement à ses principaux rivaux de droite, mais le voici aujourd'hui sur la sellette, même s'il n'est pas mis en examen, et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, poursuit le journal Helvète, qui rejette l'idée d'un tribunal médiatique ou d'un lynchage dont serait victime l'ancien Premier ministre. François Fillon n'est pas déstabilisé par la presse, mais par des révélations qui le mettent en porte-à-faux avec sa posture de candidat intègre. Dans d'autres pays européens, la pression à sa démission aurait été immédiate, conclut Le Temps. Et justement, en Grande-Bretagne, The Independent n'est absolument pas surpris que François Fillon n'ait pas interrompu sa campagne présidentielle. Pourquoi ? Parce que la fraude est une habitude dans la politique française, estime le quotidien britannique. Si une telle affaire éclatait au Danemark ou ailleurs en Scandinavie, le candidat serait cuit depuis longtemps, estime Bjørn Villum, le correspondant à Paris de la radio-télévision danoise, interrogé par Courrier International. Au Danemark, on a du mal à expliquer aux auditeurs comment ce candidat peut continuer à faire campagne, dit-il. Fini le candidat de l'intégrité, de l'honnêteté et de la transparence, affirme le journal allemand Die Welt. Il a perdu toute crédibilité. Toute cette polémique a torpillé sa stratégie, dit aussi le Spiegel. Et ce confrère, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, est plus dur encore, titrant en grosses lettres « Monsieur propre n'existe plus ». Pour le journal néerlandais Trouve, cette affaire est une bombe dans la campagne de Fillon, qui a désormais perdu son image d'intégrité. Un peu plus modéré, ou en tout cas plus prudent. L'espagnol El País nous dit simplement que ce scandale entache les aspirations élyséennes de François Fillon. Même tonalité en Italie pour la Repubblica, qui estime que le Penelope Gate a déjà causé des dommages dans la campagne du candidat Les Républicains, qui est maintenant soupçonné, je cite, de ne pas être mieux que Sarkozy. Et si nombre de journaux étrangers veulent bien entendre les explications de François Fillon, bien la majorité d'entre eux les jugent peu clairs. Il n'a pas apporté de réponse convaincante, tranche le quotidien autrichien Der Standard. Il y a définitivement quelques soucis en matière de communication au sein de l'équipe Fillon, et gratigne également Le Soir en Belgique, qui parle de bourde à répétition de la part de ses proches. Fillon va devoir apporter des réponses convaincantes pour remettre sa campagne sur les rails, observe l'américain Politico. Et toujours aux États-Unis, le Wall Street Journal, lui, fait les comptes et conclut « Si l'engouement pour François Fillon s'est déjà réduit, un autre candidat, centriste, grimpe dans les intentions de vote des électeurs français, Emmanuel Macron. »
Ah, le point Macron à 18h46. D'un scandale l'autre, Michael. Direction maintenant, comme chaque mercredi, Bruxelles.
Oui, Bruxelles, où les parlementaires européens, vous en doutez, commentent aussi largement cette affaire Fillon. Mais en Belgique, Nicolas, c'est une autre affaire qui fait la une depuis plusieurs semaines. Bonsoir, Pierre Benazé, en direct de Bruxelles.
Bonsoir.
Alors, scandale là aussi politique, et où il est question, là aussi, d'argent public, Pierre.
Oui, en ce moment, l'opinion publique belge a sous la main un vrai beau scandale, bien ancré en Wallonie, comme souvent, avec un vrai beau détournement de l'argent des contribuables du Royaume. L'affaire Publifine, c'est son nom, est un vrai feuilleton qui tient en haleine le plat pays depuis plus d'un mois, parce que les premières révélations datent d'avant Noël. Pour les chroniqueurs politiques, souvent au chômage technique, ici, au moment des fêtes, ça a été un beau cadeau. Ils n'ont pas encore oublié dans leur coffre à scandale, parce que pas un jour ne se passe sans de nouveaux rebondissements. Publifine, c'est ce que les Belges appellent une intercommunale, une société à capital public constitué par plusieurs communes qui se sont mises ensemble pour économiser sur la fourniture de services municipaux. En l'occurrence, dans la région de Liège, il s'agissait d'assurer la distribution d'électricité et de gaz. Et Publifine n'a pas oublié sa vocation première parce que c'est une vraie usine à gaz. Non seulement elle emploie 3000 personnes, mais elle est devenue aujourd'hui, bizarrement, câblo-opérateur, propriétaire d'une chaîne de télévision payante et d'un groupe de presse écrite. Et le scandale a éclaté quand les Belges ont appris que des dizaines d'élus locaux, membres de sous-conseils d'administration de Publifine, se faisaient grassement payé depuis des années pour des réunions en apparence peu utiles auxquelles il était de toute façon pas très assidu. Le lanceur d'alerte, lui-même élu local, a calculé que ses rémunérations de 1300 euros à 2800 euros par mois représentaient pour les heureux bénéficiaires entre 76 euros et 516 euros à la minute en fonction de leur assiduité à ces réunions tellement peu utiles qu'elles ont d'ailleurs été supprimées depuis l'éclatement de l'affaire.
Bon, et du côté des retombées de l'affaire, c'est important ?
La dernière en date, c'est la création aujourd'hui même au Parlement wallon d'une commission spéciale qui est censée faire la lumière sur l'affaire. Auparavant, il y avait eu des démissions en cascade, dont la semaine dernière, celle du ministre régional wallon censé surveiller les collectivités territoriales. Il y a eu aussi la consigne du Parti socialiste de Wallonie de reverser ces sommes indûment perçues à la Croix-Rouge. Mais manque de chance, la Croix-Rouge fait la fine bouche du fait de la provenance douteuse de ces fonds.
Ben voilà, Pierre Benazet, merci beaucoup, en direct de Bruxelles, 516 euros la minute. Pour finir, Nicolas, un coup de chapeau à Fortet, ce DJ londonien qui a décidé de riposter à sa façon au décret Trump qui, vous le savez, interdit désormais l'accueil sur le territoire américain des réfugiés et ressortissants de 7 pays musulmans. Et au lieu d'un texte virulent, engagé, il a choisi d'offrir sur Internet une playlist fleuve de morceaux du monde entier et particulièrement, bien sûr, de ces 7 pays incriminés, dont la Syrie, avec, par exemple, Saria El Sawas. Et de la Syrie à l'Iran, avec Kourosh Chakmaei. Ou encore la Somalie avec Hassan Adan Samatar. Voilà, 200 morceaux au total de la planète entière. Playlist que vous pouvez retrouver intégralement sur le site des Inrock. À demain, Nicolas.
À demain, Michael.